Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Sanctifié. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP.
Arrivé au lycée Henri IV, il regarde tout penaud ses camarades. À qui vais-je le proposer? Il faut que je fasse bien attention, car certains peuvent me dénoncer. La matinée, il a réfléchi. Sa décision est prise. Il va aller dans les toilettes et jeter les sachets dans les WC. La nuit, alors que tout le monde est couché, Charles sort précautionneusement de sa chambre. Longe le couloir. Descend les escaliers. Va dans la cuisine. dans le buffet le pot à sel. L'ouvre. C'est là que l'on met l'argent pour les fournisseurs, laitiers, épiciers, bouchers, qui viennent chaque matin et veulent être payés de suite. C'est les domestiques qui ont charge de ce budget. Charles sort l'argent, le compte, sur le rebord du buffet. Francs. Il les met dans sa poche et la boîte vide en place. Puis retourne à sa chambre. Demain, c'est les domestiques qui seront traités de voleurs et risqueront d'être licenciés. Est-il plus juste de punir de braves gens que de vendre de la drogue à des jeunes qui, de toute façon, en veulent et en trouveront ? C'est ce que pense Charles dans son lit. Gilles mène une vie calme et sereine avec sa grand-mère. Il aide à faire ses courses, la vaisselle, et il a de meilleures notes au lycée. Mais on le trouve un peu vieux jeu. Un soir, il dit à Charles, « Je me sens loin de toutes ces joies éphémères, apportées par le luxe, le plaisir. Ce n'est que du vent pour moi. Moi, il m'arrive de passer des heures assis dans ma chambre à regarder le soleil se déplacer. » Charles sourit et lui dit, « Toi, tu es un contemplatif. » Un soir, Charles a envie de revoir Christine. Il sonne à sa porte. Elle lui ouvre. Oh, c'est toi ! Il entre. Elle ferme la porte. Tu viens me rendre ce que tu m'as pris ? Charles est tout rouge. Il hausse les épaules. J'en avais besoin. Et moi alors ? Tu vas pas me faire la gueule, non ? Petit con ! Monsieur revient ? Il ne s'excuse même pas ? Il ne veut pas qu'on lui fasse la gueule ? Il essaie de la prendre dans ses bras. Elle se débat. Je te le rendrai, ton fric, va ! Elle se dégage et va s'asseoir sur le rebord du lit. Il sent qu'elle aimerait bien. Et pour se prouver, et lui prouver qu'il est un homme, il aimerait. Alors, il lui passe sa main sur son dos. Elle se dégage un peu. Il donne un baiser sur la joue. Je te demande pardon. Elle sourit. C'est tout ce qu'elle demandait. L'argent, de toute façon, ça va, ça vient. Elle s'allonge sur le lit. se penche vers elle, lui enlève son pull. Il n'y a rien dessous, enfin, juste sa nudité. Je suis un homme maintenant, tu sais. Il lui baise les deux seins. Descend le long du corps, arrivé vers la ceinture du jean, il la défait et défait le jean. Puis la petite culotte blanche. Elle écarte les jambes, met ses bras au-dessus de sa tête et se déshabille en vitesse. Se penche et rien à faire. Honteux, il se relève, se rhabille, et se sauve. Christine n'a rien voulu lui dire. Et puis, cela lui servira de punition pour son vol. La rue, la nuit. Effaré, furieux, il court au hasard. Puis, s'arrête, s'assoit sur un banc, furieux de ce qui s'est passé. Il n'a pas pu bander, parce qu'il voulait trop. Il voulait trop bien faire. Une grande tristesse l'envahit. L'envie de fuir le monde. Met la main dans sa poche, sans les billets. N'était pas allé chez Quentin depuis le jour où il l'a remboursé. Il sonne. C'est Quentin qui lui ouvre. Il le fait entrer et ferme la porte. Qu'est-ce que tu veux? De l'herbe. Tu as ce qu'il faut? Charles lui montre les billets. Viens. Lendemain matin, un peu honteux et encore sous l'effet de la drogue, il solde chez Gilles. Il sait que sa grand-mère est absente. Gilles lui ouvre. Et le fait entrer. trouve bizarre. Un sourire bête, le visage fixe et les yeux qui lui sortent de la tête. Qu'est-ce qui t'arrive?
Rien. Je viens de chez Quentin.
Il se penche au cou de Gilles.
Tu en veux pas, dis? Je t'aime bien, tu sais.
Et tombe en avant sur lui. Gilles a tout juste la force de le relever. Il le maintient contre lui et le mène à la salle de bain. Là, il lui met la tête sur l'eau. Mais cela n'a aucun effet, sauf de les mouiller tous les deux.
Tu vas te coucher. Je te donne du souci. Chut.
Puis, il le pousse hors de la salle de bain. Et le mène dans sa chambre. Et le pousse sur le lit. Lui enlève ses chaussures. Et l'allonge mieux.
Dors. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
Le lendemain après-midi, Charles se réveille. Il ne reconnaît pas la chambre. Il se lève. Et sort de la chambre. Voit une porte ouverte dans le couloir, il entre. C'est le salon, Gilles s'y trouve. Il fait ses devoirs. Charles s'approche de lui. Il lève les yeux.
Tu es réveillé?
Oui, je devais être sonné.
Oui, tu es encore allé chez Quentin?
Ce n'est pas ma faute. D'habitude, tout est bien, mais là, je crois que j'ai dû boire de la bière. Je m'excuse.
Je m'excuse pour tout.
Charles baisse la tête et dit:
c'est cette... Je n'ai pas pu...
Il a honte. D'un seul coup, il se rend compte comment il s'est présenté à Gilles. Pris de honte, il se sauve en courant. Gilles se lève et lui court après. Mais trop tard, la porte de l'appartement a claqué. Gilles la rouvre. Et lui crie:
fais attention, ne t'enfonce pas dans la nuit.
Fais attention, ne t'enfonce pas dans la nuit. Irène Danteuil, pour se distraire, organise une soirée. L'hôtel est comble. Pour une fois, son mari y est. Il s'y ennuyait bien un peu au début. Il a remarqué une femme dans les 25 ans, grandes mains, les cheveux blonds qui ondulent. Le genre de femme qui a un visage d'une femme qui tient un magasin. Elle porte une robe longue bleue. Se tient un coudé à un pilier, un verre à la main. Jules s'approche d'elle.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis le mari de votre hôtesse.
Enchantée.
Vous ennuyez pas trop.
J'ai l'habitude. Je fais les potins montants pour Radio Canu. Je me tape toutes les soirées parisiennes.
Oh, ma pauvre.
Heureusement, dans l'ensemble, le champagne n'est pas mauvais. Et vous, vous semblez pas aimer ce genre de choses.
Je m'y ennuyais jusqu'à présent. Mais depuis que je vous ai vu, je ne m'y ennuie plus du tout.
Ah, et oui. Dire que ma femme fait des soirées pour se consoler parce que j'ai des maîtresses et que c'est dans ces soirées que je les trouve. Elle sourit et lui dit « Vous, vous êtes un drôle de type. On ne va pas s'ennuyer avec vous. »
« Il n'y a que ma femme qui s'ennuie avec moi. »
« Ah, pauvre. »
« Oui. Mais assez parlé d'elle.
Si nous sortions, je connais une boîte assez rigolote. »
Elle de ses épaules et dit
« Pourquoi pas? De toute façon, il n'y a plus rien à voir. J'en ai assez pour mon article. »
Et ils sortent sous les yeux apeurés de la femme. Charles entre, il est 2h du matin, il monte les escaliers. Il suit le couloir pour aller à sa chambre. Tout à coup, la porte du bureau de son grand-père s'ouvre.
Charles, entre.
Charles entre. Le grand-père ferme la porte.
Rentre de plus en plus tard, mon petit. Je n'aime pas. Tu sembles avoir pris de mauvaises habitudes. Tu fais trop la fête.
Faut bien que je m'amuse, non?
Oui, mais il y a amusement, il y a amusement. Et puis, il faut penser à ton avenir, tes études. Ce n'est pas en sortant comme tu le fais que tu peux étudier correctement et avoir une vie normale. Moi, à ton âge...
Les temps ont changé.
Peut-être bien, mais ce qui est bien reste bien. Alors, je te demande de changer d'habitude, sinon...
Charles voit rouge. Il n'aime pas les menaces. Vous n'êtes qu'un vieux jeu. Et il sort de la pièce. Le grand-père se trouve seul, debout, au milieu de la pièce et il murmure.
Vous n'êtes qu'un vieux jeu. Qu'un vieux jeu. Je te plains. Tu es entré en plein dans le système. Moi qui t'aime, j'ai peur pour toi. J'ai peur, mon petit.
Charles est sorti et est allé chez Christine. Elle lui ouvre. Surprise, il a l'air tellement fragile. Entre. Elle est en chemise de nuit. Il entre. Elle ferme la porte. Elle le regarde et retourne se coucher. Il s'avance vers elle tout doucement. Enlève ta veste. C'est ce qu'il fait. Et il la pose sur une chaise. Il va vers elle. Se penche, lui donne un baiser. Qu'est-ce que tu veux ? Baisse la tête. J'ai envie. Tu en as ? Il fait non de la tête. Au bout de la rue, il y a un distributeur. Il se lève. Soupir, s'énerve. Il faut que je cours. Il va mettre sa veste. Furieux, il sort de l'appartement. La nuit, il fait froid, il court jusqu'au bout de la rue. Le distributeur met une pièce, rien, merde. Appuie sur tous les boutons, rien, même pas la pièce, merde, merde. Il cogne sur l'appareil. Il s'en retourne furieux. Entre chez Christine furieux. Il enlève sa veste. Il retourne se coucher à côté d'elle. Il penche vers elle et lui caresse les seins. Tu en as ?
Non !
Dit-il furieux. Il se lève d'un bond. Il sort de la chambre pour s'enfermer dans les WC. Christine est triste de cette scène. Au bout de quelques minutes, elle se lève. Va voir ce qu'il fait. Elle frappe à la porte des WC. Qu'est-ce que tu fais ?
Je masturbe !
Au moins, je fais comme je veux, quand je veux. Puis, pris de fureur,
merde ! J'en ai marre du sida, de l'égalité des sexes. J'en ai marre de cette société castatrice, antiphallus. Fous-moi la paix, fous-moi le camp. Laisse-moi me branler. C'est la seule chose qui me reste. Fous-moi le camp.
Elle sursaute et se retire apeurée. Retourne dans son lit. demi-heure plus tard, elle entend la porte des WC s'ouvrir. Il revient chercher sa veste et la quitte. Deux jours plus tard, Gilles retrouve Charles devant le lycée, démoralisé. J'en ai assez de cette vie, de ma famille. Je ne les supporte plus. Père embarque des femmes devant ma mère. Grand-père me fait la morale et Christine est une allumeuse. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais tout quitter. Ne fais pas ça. Et puis, je suis là. Et oui, tu es là. Comme si la vie serait simple s'il n'y avait que toi. Oh, si tu savais comme j'aimerais retourner à Biarritz. Pour la première fois, s'est fait piquer. Cela l'a rendu un peu fiévreux et malade. Il n'ose pas rentrer chez lui, à cause que l'on soupçonne. Alors, il sonne chez Gilles. C'est la grand-mère qui lui ouvre. Il est surpris, mais tant pis. Puis-je parler à Gilles, s'il vous plaît? La grand-mère va chercher Gilles. Gilles accourt vers lui. Qu'est-ce que tu as? Je croyais que tu pouvais m'héberger. Je ne peux pas rentrer chez moi. Comme ça? Qu'est-ce que tu as? Je me suis fait piquer, comme ça me rend un peu malade. Je me sens un peu fiévreux. Je crois que la meilleure solution, c'est que tu me mènes chez Christine. Tu crois? Oui. Attends. Gilles est allé prévenir sa grand-mère qui doit sortir. Il s'habille et sort avec Charles. Il le soutient un peu. Sonne chez Christine. Elle ouvre. Encore lui? Gilles lui dit. Il est malade. Bon, entrez. Ils entrent. Et elle ferme la porte. Qu'est-ce qu'il a encore? De la fièvre. Il n'a qu'à rentrer chez lui. Ça lui est difficile, vu le pourquoi. Ça va, j'ai compris. Allonge-le sur le lit. Je vais chercher de l'aspirine. Gilles va l'allonger sur le lit. et Christine arrive avec un verre d'eau et de l'aspirine. Elle le fait boire. Une heure plus tard, Charles va un peu mieux. Christine, viens. Elle se lève de sa chaise et va vers lui. Qu'est-ce que tu veux? Gilles, viens. Gilles va vers lui. Christine, allonge-toi à ma droite. Et Gilles à ma gauche, c'est ce qu'ils font. Charles donne un baiser à Gilles et un à Christine. Mes deux amis, sans vous je suis perdu. Il caresse les cheveux de Gilles, puis ceux de Christine. Puis, il met sa tête sur la poitrine de Gilles et caresse les seins de Christine. Charles, voyons. Laisse-toi faire, Christine. Je suis bien entre vous deux. Il sort les seins de la chemise de nuit. Penche-toi contre moi. Elle le fait. Pourquoi? Pour se faire pardonner la nuit dernière. Elle l'aime bien malgré tout, Charles. Malgré ses défauts, il lui caresse les seins et d'une autre main, il caresse la cuisse de Gilles qui lui ne dit rien. Cette main le fait bander, mais cela fait partie du jeu. Puis, les corps s'échangent, s'étreignent, jeu de main, jeu de corps où le corps reste absent. Malgré cela, Gilles, grâce à Dieu, reste intact. Gilles a pris son courage à deux mains et décide d'aller rendre visite au grand-père de Charles. Il sonne. Un domestique lui ouvre.
Monsieur, j'aimerais voir monsieur François-Xavier d'Anteuil.
Entrez. C'est ce qu'il fait. Et le domestique ferme la porte. Apparaît derrière le domestique l'oncle Marc d'Anteuil. La curiosité l'a fait venir. Il avait déjà vu Gilles de loin.
Laissez, je vais conduire ce jeune homme. Je suis l'oncle de Charles. Je m'appelle Marc d'Anteuil. Alors, on va voir le vieux grand-père?
Oui, monsieur.
Enfin, si ça vous chante.
Et il monte à l'étage.
Drôle de famille, n'est-ce pas? Moi, je ne veux rien avoir avec eux. Je vis sur le même toit, mais pas avec eux. J'en sais des choses. J'en sais. Ils sont riches, mais moi, pauvre. Mais j'aime mieux être à ma place qu'à la leur. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Vous savez, j'en sais des choses. Si vous saviez ce qu'ils ont fait il n'y a pas si longtemps, ils ont renvoyé des domestiques. Paraît-il qu'ils avaient volé de l'argent. Mais non. Ils les ont renvoyés. C'est par méchanceté. Ah, nous y voilà. J'ai le grand-père. Oh, celui-là.
Il lui met la main sur l'épaule, le regarde bien.
Un conseil. Ne revenez plus. Sinon, Ils finiront par vous manger.
Il frappe à la porte.
Entrez.
Ouvre la porte. Marc fait entrer Gilles et ferme la porte. Le grand-père est assis dans un fauteuil. Il a de plus en plus des difficultés à respirer et à avaler. Les rayons le fatiguent. La famille n'est toujours pas au courant.
Oh, c'est toi, Gilles. Viens, approche.
Bonjour, monsieur.
Gilles s'avance.
Cela ne te gêne pas que je t'appelle Gilles?
Non, monsieur. Vous n'êtes pas bien, monsieur?
Ce n'est rien. Je suis un peu là. C'est l'âge. Comment vas-tu?
Ça va bien. Les études se passent bien. Je vois souvent Charles. Nous allons à des concerts.
Oh, Charles. Il me crée beaucoup d'ennuis. Il a beaucoup changé. J'ai peur pour lui. C'est pas un mauvais garçon, mais il est tellement vulnérable. Est-ce que tu sais ce qu'il fait? Je te demande pas de le moucharder, mais dis-moi seulement s'il n'a pas fait de quelque chose de grave, d'irréparable.
Non, je ne pense pas.
Vois-tu, mon petit, l'adolescence est un âge difficile. C'est la période où vous êtes le plus vulnérable, alors que vous avez besoin d'aide, de soutien. Vous rejetez la famille et vous vous repliez sur vous-même. Si Charles avait des ennuis, c'est à moi qu'il faudra le dire, sans hésiter. Je l'aiderai sans le juger. Tu veux boire quelque chose?
Non, merci.
Tu vois, c'est dur d'être grand-père. On fait partie d'un autre monde, et puis l'on a à résoudre des problèmes de l'époque actuelle, notre époque, qui a créé des fausses idoles. Sais-tu ce que cela veut dire?
Un peu, monsieur.
En réalité, Gilles le sait, mais ne veut faire plaisir au grand-père.
Bien. De tout temps, l'homme a eu besoin de s'identifier, d'avoir pour modèle d'autres hommes, choisis dans la vie courante ou les légendes. Avant, ces hommes auxquels on s'identifiait étaient des personnages hors du commun, tels que des rois, des guerriers, des dieux. Les grands savants, ou quelquefois des personnes de légende, telles que ceux de mer ou des chevaliers de la Table Ronde. Ces êtres étaient des gens qui avaient une vie exceptionnelle et qui possédaient de grandes qualités. Maintenant, l'homme a toujours besoin de s'identifier à d'autres hommes, mais comme l'époque où nous vivons ne forme plus des êtres hors du commun, ni des personnages de légende, alors l'homme se rattache à de fausses idoles, tel un homme qui se noie, s'agrippe à la première chose venue, même si c'est une branche pourrie. Ces fausses idoles sont des chanteurs, des sportifs, des comédiens, des industriels. Toutes ces idoles de notre époque sont éphémères. Elles ne durent que l'espace d'une saison. Elles sont creuses, impuissantes, médiocres. Elles ne valent rien, ne nous apportent rien. Notre époque est la première à ne pas pouvoir fournir à ses contemporains la chose la plus indispensable qui soit pour le... survie de la société, au développement de l'homme. Pourquoi l'homme a-t-il besoin de s'identifier, dit de l'entrée? Je crois que c'est une chose innée. Dans sa putain d'enfance, l'homme s'identifie à ses parents. Et puis, un jour, il s'aperçoit qu'il est de l'entrée, que les êtres qu'il est d'entrée étaient des gens comme tout le monde. Alors, il cherche ailleurs ce qu'il ne trouve pas chez lui. Et ce qui lui permet de s'ouvrir au monde et de s'en comparer aux autres. En voyant ses défauts et ses qualités, il peut de cette façon s'améliorer et mieux comprendre les autres. Nous avons besoin pour nous développer de prendre racine, de s'identifier, d'avoir une base, un modèle qui soit dur, grand, fort. Si nous ne trouvons que quelque chose qui ne soit pas suffisamment fort, et comme nous devons nous baser sur quelque chose, nous le faisons sur ce que la société nous offre. La jeunesse d'aujourd'hui est malade du manque de héros, Dieu. Elle ne peut trouver de modèle de base pour se développer. Elle se développe comme elle peut, sans âme, ni foi, ni loi, d'une manière anarchique, suivant la circonstance. Ceci forme une jeunesse, un peuple, une société à la dérive. Comme un bateau dont l'équipage n'aurait pas de capitaine. Une société qui vit sans idéal, sans modèle. Pour sa jeunesse, est une société qui meurt du manque de création, de combativité. Car pour briller, il faut une base, un besoin. Pour combattre, il faut un but, un modèle auquel on doit aboutir. La civilisation occidentale est à l'agonie, faute d'idoles pour sa jeunesse. Notre société forme des êtres à l'emporte-pièce, sans âme ni idéal. Dès leur plus jeune âge, ils sont dirigés, formés, étiquetés. Pour une certaine personnalité, un certain travail. Au lieu de former la jeunesse pour devenir des hommes, on les forme à un certain type de vie. Mais ceci ne peut pas durer longtemps. Car l'être humain n'est pas une machine qui ressemble à d'autres machines. Il n'y a pas deux hommes qui se ressemblent et qui ont le même besoin pour vivre, en plus des besoins vitaux. La société humaine ne peut vivre comme des sociétés de robots. L'homme se révoltera contre ces systèmes, car il est inné pour lui d'avoir personnalité propre et indispensable pour son développement. L'homme doit vivre en société tout en étant indépendant le plus largement possible de cette société. Ceci fait partie d'une des particularités de l'espèce humaine. Voilà, mon petit.
Le grand-père a fini de parler, épuisé, mais heureux d'avoir donné ses idées. Gilles l'a écouté avec attendrissement. Il a senti que ça lui faisait plaisir. Alors c'est pour ça que les jeunes se révoltent constamment dans cette société et qu'ils font des choses suicidaires?
Oui, c'est pour cela. Et j'ai peur pour Charles,
pas pour toi, car toi, tu es un être pur. Une espèce d'ange. Intouchable.
Oh, monsieur,
ne te fâche pas. C'est un compliment.
Que je ne mérite pas.
Je me sens là. Pardonne-moi. Mais il faut que je me repose. Reviens me voir. Et garde Charles. Garde Charles.
Je vous le promets, monsieur. La grand-mère de Gilles est absente. Alors, Charles part la soirée chez lui dans sa chambre. Ils sont assis à une table à réviser. Après une heure de travail, Gilles lui dit: Charles, je trouve que la vie que tu mènes en ce moment ne te mène à rien. C'est pas bon pour toi. Tu perds ta vie. Charles ose les épaules et lui dit: C'est avant que je perdais ma vie. J'ai gâché ma jeunesse en étant trop sage. Maintenant, je veux me rattraper. Regarde, les adultes font la morale aux jeunes. Mais si tu vois comme ils vivent, regarde mon père. C'est la preuve que le plaisir est le but de tout. Gilles secoue la tête et lui dit: Non. C'est dans la sanctification que se trouve la joie. La preuve, regarde. Une personne malade, lorsqu'elle se sent guérie, a l'impression de revivre. Eh bien, une personne qui vit dans la dégradation est malade de l'âme. Et comme cette maladie se guérit, comme une maladie du corps, une fois que l'on est guéri, on se sent revivre, sanctifié. Charles sourit et lui dit: Tu as vu grand-père? Tu deviens comme lui, vieux. Gilles sourit: Non, je ne crois pas, c'est éternelle vérité. Charles lui dit: Des mots tout ça, des mots.
Pleurer sur ton épaule, oiseau.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Sanctifié, dont c'était la troisième partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.